Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler une fois n'est pas coutume d'une démo dans le cas présent de celle de Bulletstorm, donc pour tuer avec du style. The Dream Machine, donc on a déjà évoqué dans le palmarès dans le sélectionner les finalistes de l'IGF. Monsieur Fall, la minute culturelle, et on finira sur DC Universe Online, le MMO de l'univers de Batman et Superman. Mais je vais commencer en accueillant mes chroniqueurs favoris, mais non, en fait, Patrick a une bonne excuse aujourd'hui, il ne peut pas venir, donc on va refaire une émission à deux, donc j'accueille Clément Appap de Sens Critique. Bonjour Clément.
Bonjour.
Donc on va essayer de se débrouiller, hein. J'ai pas annoncé une émission plus courte comme la semaine dernière, parce que finalement on avait tenu 45 minutes à deux, hein. Donc on va faire l'émission, hein, comme on le sent, avec le timing qu'on veut. Donc on va commencer avec toi, tu vas nous parler d'une petite annulation, enfin pas d'une petite pour le coup.
Oui, on va parler de The Outsider, en fait, qui est un jeu qui est peu connu par le grand public, mais qui est connu par ceux qui suivent David Braben. David Braben, pour ceux qui se rappellent, c'est celui qui a créé le jeu Elite, donc ce jeu magnifique.
Et Dog's Life, dont on se souvient moins, forcément.
Oui, et aussi récemment, en fait, son studio Frontier Development a fait de nombreux jeux sur PS2, des petits jeux. Et récemment, sur Kinect, ils ont fait Kinect Immols, le jeu assez sympathique, en tout cas bon, pour les enfants, mais assez sympathique.
Ah, c'est eux qui ont fait Kinect Immols.
Tout à fait. Et donc, The Outsider, en fait, on va dire que c'est le vrai jeu ambitieux qu'ils avaient en préparation, qui a été lancé en 2005. The Outsider, juste pour resituer, en fait, on jouait le rôle d'un agent de la CIA à notre époque, à Washington, qui devient un fugitif. Donc ça ressemblait un peu à un GTA dans le sens où c'était une ville ouverte avec un personnage qui bougeait dedans, mais ça devait être à ce genre-là ce que Elite était au jeu spatial, c'est-à-dire vraiment une liberté totale,
sans doute avec un aspect génératif aussi.
Voilà, il y avait beaucoup de choses intéressantes dedans,
procédurales,
voilà, avec beaucoup d'arcs narratifs différents, beaucoup de liberté. C'était un jeu qu'on attendait beaucoup parce que c'était pas un jeu qui était classique des AAA qu'on voit aujourd'hui, des blockbusters d'aujourd'hui. C'est un jeu qui allait au-delà et qui promettait en fait de révolutionner un peu le gameplay de ce genre de jeu. En tout cas, tout ce qui concerne le côté narratif de la chose, les embranchements, etc.
Est-ce qu'on a une explication à cette alors, annulation?
On sait que ce jeu... Alors, l'annulation n'est pas officielle, mais elle est effective en fait. En fait, Codemaster était derrière, Codemaster l'a laissé tomber. Ils avaient besoin d'argent pour finir de le développer à la fin de l'année 2011. Ils étaient pas loin, apparemment, d'après les fuites.
À la fin de l'année 2010.
Non, ils devaient sortir à la fin de l'année 2011.
Ah oui, d'accord.
Mais, donc ils étaient en développement. Mais, ils avaient besoin d'argent. Ils étaient pas loin de signer avec Electronic Arts. Mais bon, a priori, finalement, ça s'est pas fait. Donc Frontier Development a licencié quelques personnes et en fait ils refocusent leur équipe sur des jeux qui n'ont pas été annoncés pour l'instant. Donc on peut comprendre, hein, on est triste aussi, voilà, parce que c'est, ce genre de jeu, c'est des jeux qui demandent beaucoup d'ambition, des jeux qui sont quitte ou double. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de faire ça quand on a une structure. Enfin voilà, c'est des jeux qui tout doublent. Alors on sait qu'avec Kinectimals, ils ont fait de l'argent, mais comme ce jeu, ils l'avaient financé sur leurs fonds propres, ce qui est dommage aussi pour nous joueurs, c'est qu'on peut s'imaginer que du coup, Elite 4, qui était toujours dans les projets, dans les projets,
ouais, ça va se faire ressentir.
Ça va se faire ressentir. Ils n'auront pas les moyens de relancer un gros jeu sans.
Ça calme un peu, ça refroidit un peu d'avoir de l'ambition quand. Ouais, bah, c'est ça qui est.
C'est ça qui est un peu dommage, surtout pour un jeu vraiment. Hein, il y a des vidéos qui traînent sur le net, donc allez les voir. Le jeu était beau, le jeu vraiment était prometteur pour ceux qui suivaient la chose. Donc The Outsider annulé, ça veut dire probablement Elite 4 annulé aussi. Parce que à moins qu'ils trouvent des éditeurs. Donc là on est assez triste, même si on le verra avec The Dream Machine dont on va parler tout à l'heure, il y a encore des manières de faire des jeux qui sont pas des triple A, FPS, etc. Mais on est un peu déçu quand même de The Outsider.
Mais c'est clair aussi que pour révolutionner un peu un aspect très GTA, il faut du pognon, quoi. Enfin, ça peut pas se faire.
Clairement. Alors en fait, David
dans
Braben,
le cadre d'un jeu indé, ouais. c'est pas possible.
Alors il y a les optimistes se raccrocheront au propos de David Braben qui disait que oui, c'est annulé, mais il y a peut-être un développeur, un éditeur qui est peut-être un peu intéressé. Mais bon, voilà, c'est juste pour, à mon avis, c'est plus du damage control pour voilà.
Puis sait-on jamais.
Sait-on jamais.
C'est comme Elite, hein, finalement. Il n'y en a pas eu tant que ça, des Elite-like, des choses comme ça.
Clairement, mais...
Donc, c'est des choses qui peuvent prendre 2-3 ans à être relancées, pourquoi pas.
On espère.
Le com des coms de la semaine dernière, Nico qui revient sur la DS, la 3DS. Le souci de l'autonomie n'est pas un problème exclusif à la 3DS. Si on élargit le point de vue, on peut considérer que c'est une pathologie commune à tous les appareils nomades. Les smartphones, les PC portables, les baladeurs, les consoles fonctionnent encore sur le principe de la batterie qui date du 19e siècle, tandis que leurs fonctionnalités énergivores se multiplient. Et donc, en fait, on dit qu'on est quand même un peu face à une impasse concernant l'énergie. Mais c'est un peu un souci aussi d'avoir des consoles puissantes, portables. On arrive à un problème un peu insoluble.
Bah, sinon, on fait comme moi. Moi, j'ai une batterie. En fait, dans ma poche, qui me sert à recharger
exactement,
mon iPhone,
et tu rentres dans la catégorie. Actuellement, la seule réponse probante reste encore d'augmenter la taille physique de la batterie. Ouais. C'est un comble. VNZ, qui n'a pas manqué de me corriger, parce que j'avais cherché un petit peu, et puis je m'étais trompé sur le nom de l'ordinateur central de Portal, que j'avais malencontreusement appelé GLaDOS. Il s'agit bien entendu de GLaDOS, voilà, mea culpa hein, sur le coup. Il y a eu une discussion que, pour ma part, j'ai trouvée fort intéressante sur les jeux de ski. Hein, parce que c'est, ouais. Quand même, c'est, pour moi, ça a été ma grande revendication hein, de la semaine dernière, de voir enfin un vrai jeu de ski. J'avais parlé, un auditeur m'en a reparlé, de Alpine Ski Racing, qui avait été assez formidable, mais seulement sur PC. C'était un tout petit jeu. Je me rappelle encore de ces commentaires sportifs sur Alpine Ski Racing qui étaient absolument surréalistes, où il y avait deux commentateurs qui se racontaient leur vie, mais d'une course à l'autre. Et ça durait pendant une centaine de courses, et les mecs continuaient à se raconter la même histoire. C'était un truc absolument dingue. Le jeu est passé complètement inaperçu, mis à part un formidable papier dans Libération, forcément. Bref, Takamine qui dit « Je reviens juste sur les jeux de ski sans vouloir vous froisser. J'avoue avoir du mal à entendre qu'il y a un marché important pour cela. Déjà, à la base, la popularité du sport est bien moindre que les ténors que sont le foot, la course auto et le basket. Ensuite, il y a la saisonnalité, des épreuves qui ne sont que l'hiver, les Jeux Olympiques tous les 4 ans. Ça laisse peu de temps en termes de com pour donner de la visibilité du produit aux fans. Et après ça, eh bien, je qualifierais ça d'effet cascade, peu de ventes, donc peu de budget pour les suivants. Budget bouffé presque entièrement par la licence, donc jeu médiocre qui ne se vend pas, donc peu de budget pour le suivant, etc. etc. » C'est une opinion. Après, il y a un truc qui s'appelle, je crois, un jeu de ski gratuit, Ski Challenge, je crois, qui est gratuit à télécharger actuellement en ligne, qui n'est pas génial, hein, pas un modèle physique 3D monstrueux, mais qui a quand même 100 000 joueurs inscrits. Hein, donc, je me dis, il y a quand même quelques joueurs qui sont intéressés. Et c'est un truc très simulation. Il n'y a que du ski et il n'y a que des épreuves classiques de sport.
Tu vas l'essayer, donc, probablement.
Ouais, j'ai commencé à l'essayer, mais pas sur mon PC. PC assez puissant, donc ça ramait. Bref, et Takamine dit qu'il faudrait quand même du budget, mais Dalai Lama répond, et pourtant le ski ne me semble pas être, ne me semble être un des sports les plus simples à recréer. Tout est une question de positionnement, de piste, de la posture du skieur, pas d'IA, pas de jeu d'équipe, de la possibilité de tourner contrairement à la course. Des graphismes pas dégueux, une piste bien modélisée, une vibration bien calibrée, et puis pour les contrôles c'est assez simple, franchement pas besoin d'un budget de malade, c'est assez mon opinion, parce que je me rappelle, pour reparler de Alpine Ski Racing, en fait c'était des contrôles très très simples avec les trois flèches, hein, c'est-à-dire la flèche du haut, enfin les quatre flèches
pour accélérer,
haut pour accélérer, bas pour freiner, gauche-droite, hein, et en fait tout était une question de timing. Par exemple, réussir un slalom pur dans Alpine Ski Racing, c'était quand même de la performance, il fallait sacrément d'entraînement pour apprendre à prendre les virages, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même, c'est pas très très compliqué, et il y avait toute une réflexion dans les forums, j'ai terminé par ça, sur le modèle physique de la neige. C'est un peu le truc qui fait rêver les joueurs, en tout cas moi c'est vrai, c'est avoir enfin un vrai modèle physique de la neige, et rattraper pour cela quelques jeux de course de voiture, où on peut rouler dans les traces des concurrents précédents, ouais. Ça peut être vraiment,
ça crée des
vraiment
boss et, ouais,
sympa à ce niveau là.
Here's the skinny. You, well, me, and our scurvy pirate pals crash landed. And the only way off this butthole of a planet is hard resolution. Might just be some demo to you. A succulent morsel of the greatest damn game ever made. But I'm heavily invested in our success. Come on and creatively kill your way through a metric fuck ton of mutated spuds.
Let's Storm, ça vient tout juste d'arriver en téléchargement sur les consoles et peut-être sur PC aussi.
Non.
Ah, que sur les consoles. Ouais, ouais. La démo, 1,8 gigaoctets à télécharger, du jeu d'Electronic Arts qui sortira fin février, et plutôt très attendu dans la série des FPS attendus de 2011, qui est bien longue.
Ouais.
Tu as essayé cette démo, qu'en as-tu pensé, Clément?
Du bien. Alors moi j'attendais beaucoup ce jeu de People Can Fly, parce que
Painkiller,
voilà,
lance-pieux, ouais,
exactement. Donc c'est un jeu fait par des développeurs qui savent ce qui plaît aux joueurs de FPS, et des gens qui ont une expérience, et en plus ils ont été aidés là par Epic Games qui a fait
duo gagnant.
même si on doit remercier, enfin si on doit féliciter des gens, je le répète, c'est People Can Fly et pas Epic Games. Oui. Voilà, enfin quand même, rendons à César. Alors c'est un jeu intéressant, c'est un jeu comme tu le dis, où le but c'est de kill with style, donc de tuer avec style, et donc en fait il y a beaucoup de combos à faire. Et c'est assez marrant, c'est qu'il y a beaucoup de combos à faire. Le but c'est pas juste de dégommer l'adversaire en le tirant dessus, c'est de l'attraper avec son lasso énergétique, de l'avancer à soi,
de lui donner un grand coup de tatane. Et là on passe en mode
bullet time,
et on peut viser à peu près toutes les parties qu'on veut, et augmenter son score de style.
C'est assez marrant parce qu'on retrouve quelques éléments, par exemple dans Devil May Cry, donc par exemple pour prendre ce jeu là où tout était affaire de combo et de style et de puissance dans l'exécution. Et là c'est un peu pareil, parce que ce qu'on a eu c'était un niveau très court, à peu près 6 minutes de la campagne solo, où le but c'est de faire le plus de points possible en tuant les ennemis. Au niveau graphisme, au niveau ambiance, au niveau tout est là. Les armes, ce qui est rare dans un FPS, les armes sont intéressantes, j'ai trouvé. Elles sont originales, donc ça c'est, il y a beaucoup de qualité dans ce jeu là maintenant moi j'ai, donc comme on l'a dit, ce jeu va sortir sur PS3, Xbox et PC. La démo est que sur Xbox et PC. Moi je suis un joueur PC à la base en FPS, donc
que sur Xbox et PS3.
PS3 pardon, voilà. Moi à la base je suis un joueur PC en FPS, clavier souris c'est ma religion. J'ai un peu plus de mal au pad, et j'étais étonné de avoir aucun mal du tout au pad. C'est-à-dire que le jeu est vraiment très facile. Moi qui suis un joueur moyen voire médiocre au pad, j'ai eu aucun problème. Alors certes, on n'a pas vu les boss, il y a beaucoup de choses qui sont pas là, mais ça m'a fait un peu peur là-dessus. J'ai plus l'impression d'un côté, j'ai peur en fait de me faire assez vite chier, dans le sens où après avoir vu tous les kill shots, donc toutes ces animations sur des mise à mort avec style, j'ai
mais
peur.
Est-ce
de...
que tu les as toutes vues? C'est ça le.
Non, bah
le
sur internet, on en a déjà vu une vingtaine sur 100, donc il y en a encore pas mal à découvrir. Donc c'est là assez sympa. Non, franchement c'est une démo que.
Alors la démo,
vraiment tout le monde a y joué, ouais.
Oui, et c'est une démo qui est faite pour. C'est vraiment une démo. C'est pour montrer ouais. aux joueurs ce qui va être possible de faire, un peu l'étendue des possibilités. Je pense que c'est pas une vraie une vraie prévisu du jeu en lui-même.
Moi je suis pas
c'est vraiment un niveau où voilà, on peut avoir l'espèce de niveau ouvert où il y a les pics contre les murs où tu peux éclater rien qu'avec un coup de pied, tu embroches tes ennemis sur les murs et quand tu les prends avec ton lasso qui sont cachés ouais. derrière un pilier, en fait tu les embroches par derrière. C'est très très bien pensé. En fait, le level design est très fin. Enfin, très fin. Enfin, c'est
oui, y a
c'est
peu
peut-être
bourrin,
pas le bon terme dans le cas de Bulletstorm, mais j'ai trouvé très très bien pensé, très.
Non, clairement, non. Il a beaucoup de.
Et
il,
moi, j'ai fait. Ouais. Je crois que je l'ai fait 4 fois le niveau, plus une ou deux fois où je suis mort entre temps. Et en fait, dès qu'on meurt, on a fini.
Ah, en tout cas, toi, t'es quand même mort.
Oui, parce que ouais. bon, bah quand t'arrives, il y a un passage où t'as environ une vingtaine de mecs devant toi qui te canardent. Et quand t'arrives,
prendre la grosse mitrailleuse, c'est pas là.
Oui, mais là, ouais. en fait, au début, je l'avais déjà tiré de loin. Enfin,
d'accord,
bref.
D'accord.
Et j'ai voulu rusher et je me suis fait dégommer sur le chemin. Mais bon, c'était pas bien grave. Mais la démo se termine à ce moment-là. Et donc, je l'ai fait quand même un certain nombre de fois. Et en fait, on a quand même vraiment envie d'explorer les possibilités. Et ça m'a donné envie de jouer au jeu pour pouvoir parcourir d'autres
mondes,
d'autres systèmes, ouais. D'autres niveaux, une autre construction, une autre architecture. On voit, alors il y a pas trop de, en tout cas j'en ai pas vu tellement de trucs cachés dans cette
ouais moi non plus ouais.
dans ce niveau démo. Il y a surtout
ça
le premier.
C'est assez cool. Moi de les retours que j'ai eu de quelques amis qui l'ont vu un peu en première, c'est assez couloir. Voilà, c'est assez couloir.
Ah, ça sent. Hein.
Par rapport à un Painkiller qui était des trucs un peu plus ouverts ou un peu plus délire, c'est assez couloir, mais bon voilà,
c'est assez pas... couloir, mais on arrive quand même dans des grandes pièces,
c'est vrai.
Ça va pas être un jeu où on va pouvoir catégoriser l'intelligence artificielle des ennemis, hein. Je pense que ouais. là c'est pas le but, ça va être très frontal comme affrontement, c'est très bourrin,
alors ce qui est marrant, moi ce que j'ai aimé dans ce jeu là c'est à la fois donc ce qu'ils proposent, mais à la fois ils ont été très très malins, j'ai trouvé, dans la gestion du teasing de la communauté. C'est un des meilleurs blogs que j'ai vu pour parler d'un jeu. Là la démo elle arrive à point, les gens attendaient la démo, enfin c'est rare qu'on attende d'une nouvelle IP, quand c'est une nouvelle franchise, que c'est pas une suite d'un jeu très connu, c'est rare qu'il y ait autant d'attentes aussi.
C'est finalement que les FPS second degré entre guillemets, il y en a très rarement des bons.
Ouais.
On connaît Serious Sam qui a été
Duke Nukem, l'original.
Serious Sam, Painkiller à sa façon avec avec ses armes un peu le lance-pieux, le lance-pieux. Et là, Bulletstorm, il y en a peut-être eu un que j'ai oublié, mais en tout cas pas
non,
de vraiment
en gros,
marquant.
En gros, c'est ça. Ouais.
Et donc finalement, ces jeux à second degré, ces jeux marrants qui utilisent le système de meurtre en série et de choses comme ça au FPS, avec un décalage, en faisant quelque chose de drôle, en faisant quelque chose de vraiment second degré, où finalement les gerbes de sang sont là plus pour amuser que pour faire réaliste.
Ouais.
Il y en a. Pas souvent.
Mais c'est pour ça que pour moi, Bulletstorm est le vrai successeur, enfin dans ma tête, hein, de spirituel de Duke Nukem. Mm. Le Duke Nukem Forever qui va sortir cette année aussi, qu'on attendait depuis longtemps. Celui-là, moi, je le trouve vraiment, pour le coup, totalement dépassé, quoi.
Il risque de prendre un gros coup de vieux. Ouais.
Notamment
avec la sortie de Bulletstorm.
Ouais,
parce que c'est vrai que voilà, il y en a un tous les 4-5 ans, quoi, des vrais jeux parodiques, des vrais FPS parodiques.
Donc on attend d'y jouer la version définitive pour émettre un avis un peu plus avancé.
Mais en attendant, vous pouvez vous comparer avec vos amis sur le leaderboard qui est assez rigolo sur Bulletstorm, à télécharger sur PS3 et Xbox 360. Question, c'est est-ce qu'il peut y avoir deux styles plus différents l'un de l'autre que Bulletstorm et The Dream Machine ?
Non.
Soyons clairs.
Ouais, The Dream Machine, c'est The Dream Machine, pour moi, c'est mon premier coup de cœur de 2011. Clairement, même si le jeu, il est sorti en 2010, voilà. Alors, c'est un point and click, c'est pas d'habitude mon genre de jeu. Un point and click, c'est On voit un écran de jeu, par exemple le salon, puis après on passe à l'autre écran, par exemple la salle de bain. Et là, on doit récupérer, voir les objets qu'il y a. Voilà, enfin, on doit résoudre des énigmes et avancer dedans. Alors, déjà, The Dream Machine, c'est un excellent point and click, je trouve, dans les puzzles, parce que tout se passe dans notre tête. C'est que c'est la première fois, je trouve, personnellement, que j'ai pas été bloqué stupidement. Tout s'est naturellement enclenché. Tout s'est naturellement enclenché. J'ai trouvé naturellement un moment où j'aurais pu décider d'arrêter parce que j'en avais marre. Hop, j'ai trouvé la chose. Il y avait un vrai sentiment d'intelligence même de soi. C'est super intéressant. Donc c'est vraiment très bien pensé au niveau des puzzles. Deuxièmement, au niveau de la direction artistique, c'est fait en claymation. En claymation, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu fait à la main. C'est comme les Wallace et Gromit des studios Hardman, en fait. Tous les environnements ont été faits en pâte à modeler. Et quand on bouge, notre personnage bouge type pâte à modeler. Alors évidemment, après, c'est un jeu vidéo, il y a du dialogue, etc. Donc, il a un univers artistique vraiment unique. Original et unique. Alors, l'inconvénient du claymation, c'est que ça prend du temps à faire. C'est-à-dire que ce jeu existe en 5 chapitres. Il y a le premier chapitre qui est gratuit. C'est un jeu, alors on l'a pas précisé, c'est un jeu qui se joue dans le browser, c'est un jeu flash. Donc on y joue avec n'importe quel ordinateur, pas avec l'iPad, parce que ça supporte pas le flash, mais voilà, on y joue avec n'importe quel ordinateur. Le premier épisode est gratuit, donc jouez-y et vous verrez. Le deuxième est déjà disponible. En fait, le jeu, tous les épisodes coûteront, enfin on peut l'acheter maintenant pour 14€. Donc c'est peu cher, c'est très raisonnable à ce niveau-là. Et moi, ce que j'ai vachement aimé, c'est aussi le scénario. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu qui est vraiment totalement différent de ce qu'on a dit avant. C'est un jeu qui parle de l'optique où, et j'ai lu une interview de parce que c'est deux Européens du Nord, en fait, qui font ça. Et en fait, il est pas du tout contre les Call of Duty, les Bulletstorm, etc., mais il dit ça, c'est des jeux, on en voit plein. Ça parle au cerveau reptilien. Et voilà, c'est chouette, c'est sympa de tuer des gens, mais là ça parle au cerveau. En fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il crée l'histoire dans la tête de la personne. Pour moi, il fait partie de ces jeux qui mélangent le narratif et le gameplay. Je m'explique. Ce qui est super intéressant dans le jeu, c'est que les dialogues des personnages, c'est pas des dialogues de personnages de jeux vidéo. On suit au tout départ une aventure assez simple. On suit un couple. Nous, on joue l'homme. On suit un couple qui s'installe dans une nouvelle ville avec la femme qui est enceinte. Et voilà, donc quelque chose de tous les jours. C'est voilà, un couple qui s'installe dans une nouvelle ville et qui crée sa famille. Et en fait, les dialogues sont des vrais dialogues. C'est des dialogues qu'on pourrait utiliser dans la vie de tous les jours. C'est pas du tout du jeu vidéo. C'est vraiment contemporain et c'est super intéressant. Sans spoiler trop, après on part dans la Dream Machine. Donc là on part dans un univers plus de rêve. Mais le fait d'avoir fait commencer le jeu dans le réel, ça permet beaucoup beaucoup de choses. Et ça, j'ai trouvé ça super super intéressant. Ça joue avec beaucoup de choses, le voyeurisme, avec il y a des idées. Ça fait réfléchir le joueur. Et c'est ce que j'aimais bien aussi dans BioShock à un moindre niveau. C'est toujours on joue avec la morale du joueur. On joue avec on réfléchit nous-mêmes autour. Enfin au-delà de ça. Sans compter que le cœur du gameplay, donc les puzzles du jeu, sont vraiment excellemment bien pensés. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur, clairement, du 2011.
J'ai l'impression d'être con en posant une question aussi pragmatique après ça, mais ça dure longtemps, longue expérience.
On peut imaginer chaque chapitre, si tu bloques pas du tout, ça fait, je dirais, une heure et demie.
Ah oui, donc c'est quand même une
bonne
durée.
Oui. C'est même gratuitement, t'as un super jeu qui fait déjà, t'as déjà une heure de bonheur. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, moi, j'ai parfois bloqué sur un ou deux trucs où j'ai dû vraiment creuser la tête. Et donc là, ça ralentit effectivement la durée vie du jeu si on va pas chercher sur Internet la solution.
Et est-ce qu'il y a un planning pour les 3 épisodes restants ou c'est quand ils auront le temps?
Théoriquement. Alors, ça prend beaucoup de temps à créer, en fait. Voilà. Alors,
il n'y a pas de modèle 3D réutilisable.
Voilà. Il prévoit normalement D'ici la fin 2011, il y en aura un en mars, un en juin et en novembre, je crois. Donc voilà,
ça va arriver très vite.
C'est sur la fin d'année, en tout cas.
Et donc, ils sont, on en avait parlé, ils sont dans la catégorie meilleur design, forcément. Ils sont finalistes de l'Independent Games.
Très original, à beaucoup de choses. Alors, c'est un jeu en anglais, par contre. Bon, c'est pas, il faut avoir un niveau d'anglais basique. C'est pas obligé. Enfin voilà, on n'est pas obligé d'être bilingue ou de parler couramment anglais.
Et donc en fait, le point and click a encore de l'avenir.
Eh ben franchement, mais même moi qui suis pas un amoureux du genre, là j'ai été sous le charme. Voilà.
Belle utilisation par le côté jeu indé.
Pour accélérer le temps de recherche Google, c'est thedreammachine.se. Voilà.
The Dream Machine PSE, le premier épisode est gratuit. On va accueillir maintenant Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan. Il y a peu, vous receviez dans vos studios l'éditeur Funforge venu vous parler d'une de ses dernières nouveautés et les auditeurs se demandaient si j'allais aborder le jeu à un moment donné ou pas dans une de ses chroniques. Eh bien voilà, j'ai joué à Isla Dorada et j'ai décidé de vous en parler. Donc Isla Dorada est édité par Funforge, il est signé Bruno Fiduti, il s'annonce pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans et des parties de 60 à 90 minutes. Alors, de manière étonnante, le jeu est sous-signé, vous avez des noms d'auteurs sur la boîte, vous avez Alan Moon, Andrea Angiolino et Pier Giorgio Paglia, parce que Monsieur Fiduti a emprunté des mécanismes à droite à gauche, à des jeux qu'il aimait, à des éditeurs qu'il connaissait, à des auteurs qu'il connaissait, et il leur a demandé l'autorisation, il leur a demandé leur avis. C'est ainsi que Isla Dorada ressemble par exemple un petit peu, mais de loin, à Les Aventuriers du Rail. C'est pour ça qu'Alan Moon est cité sur la boîte. Oui, le jeu rappelle très fortement Les Aventuriers du Rail, donc c'est un jeu plutôt, on va dire, familial, mais familial plus. Le matériel est splendide, vous avez une carte représentant une région un peu inconnue, et vous allez partir à la découverte de Cancan. Il y a des figurines posées sur le plateau que vous allez devoir déplacer en faisant des enchères, puisque la figurine appartient à tout le monde. Et c'est là que, pour moi, personnellement, le bas blesse. Je suis un joueur qui n'aime pas trop le chaos, et Monsieur Fiduti aime beaucoup le chaos, donc le jeu en est truffé. Vous allez faire des enchères avec des cartes que vous allez piocher. Si vous n'avez pas les bonnes cartes, vous ne pouvez pas contrôler grand-chose. En plus, si vous avez les bonnes cartes que vos adversaires ont des cartes qui vont mettre la pagaille, parce qu'il aime beaucoup ça, vous allez gagner des enchères, mais la pagaille va venir vous stopper, les cartes action des autres vont vous stopper. Donc là, c'est un peu frustrant, mais je comprends tout à fait que certaines personnes adorent ça, aiment bien le foutoir et ne pas tout contrôler dans un jeu. Ce qui est le cas de Isla Dorada. Le jeu s'annonce pour les familles, on va dire, ou les joueurs pas forcément super spécialistes, mais il y a un tout petit souci, la règle est un peu complexe, il y a plein de phases et de sous-phases. Vous allez sans arrêt, comme le jeu, les cartes sont composées de cartes avec des noms et non pas des textes dessus. Vous allez devoir sans arrêt faire appel à votre aideur de jeu qui, au demeurant, est très bien faite. Donc il va vous falloir 4 ou 5 parties pour bien maîtriser tous les éléments du jeu, pour vous plonger dedans. Ce n'est pas instantané. La première partie est forcément un peu laborieuse. Mais si vous aimez le chaos, si vous aimez la pagaille, si vous aimez ne pas tout contrôler, Isla Dorada est fait pour vous, surtout qu'il est très joli. Voilà mon cher Erwan, j'imagine qu'avec la tête que vous avez, vous aimez beaucoup le chaos, donc vous devrez vous y retrouver dans Isla Dorada, mon cher Erwan. Donc je vous rappelle, Isla Dorada, Bruno Fiduti, un jeu pour 3-6 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 80-90 minutes. Vous allez trouver le jeu aux alentours de 45-50 € dans toutes les bonnes boutiques. Voilà mon cher Erwan, je n'ai pas spécialement apprécié Isla Dorada parce que ce n'est pas un jeu fait pour moi, vraiment pas du tout, mais il doit avoir son public. Faites-vous votre opinion en le pratiquant. Voilà mon cher Erwan, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, monsieur Fall. C'est vrai qu'on attendait, votre avis sur Isla Dorada de Funforge qu'on avait accueilli à Silence on joue il y a quelques semaines déjà. La minute culturelle, cher Clément, tu ne vas pas y échapper.
Et surtout, moi aussi maintenant, je vais me faire porter absent parce que.
Oui, non, mais là, ce serait relou. Ouais. Hein, ce serait relou.
Je suis prêt à subir ton courroux. Vas-y.
Ouais. J'avais pas le choix de la poser, mais je sens la question traître, surtout en te concernant. C'est une question de Marmotte19 qui dit quelle devait être à l'origine la suite de Fallout 2.
Attends, c'est problématique, sachant que Fallout 2, c'est quand même mon jeu préféré.
Mais oui, c'est pour ça que je sens
Il y avait un Fallout Tactics qui est sorti, mais c'était un Tactics.
Alors, pour t'aider, il y avait un Fallout 3 et il avait un nom de code.
Vol 13, c'était V13, c'était Project V13 en fait.
Alors, j'ai peur que tu aies raison. Et l'auditeur Marmotte19 aussi, lui, il dit c'est le projet Van Buren. Van Buren, développé par Black Isle Studios.
Malheureusement, ouais, celui-là, c'est le même.
Interplay a eu la bonne idée de virer l'équipe travaillant sur le jeu ainsi que d'annuler le projet fin 2003. Mais heureusement, alors Fergus Urquhart, fondateur de Black Isle Studios, s'est allé à Chris Avellone. Chris Parker et Darren Monaghan pour lancer Obsidian Entertainment, qui développera quelques années plus tard Fallout New Vegas.
Ouais, mais c'est marrant, c'est que ouais, bon, c'est le même.
C'est-à-dire le vrai Fallout 3, hein,
tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que V13 était marrant parce que V13, pourquoi V13? Parce que c'était Vault 13, c'était l'abri 13, ouais. C'était voilà un clin d'œil au jeu original. Mais il y a eu des images qui ont été leakées à ce moment-là, au moment où il était annulé, et c'était un Fallout 3 qui était comme le 2 en termes de vision isométrique, etc. Ouais. Donc moi j'aurais peut-être préféré cette
Et alors pourquoi vision-là. Est-ce que ce projet était appelé Van Buren?
Eh ben, je sais pas, parce que pour moi c'était V13.
Oui, pour le coup. Ça fait référence au 8e président des États-Unis, soit Martin Van Buren, parce que lors du développement de chaque jeu, Interplay donnait comme nom de code le nom de l'un des présidents américains.
D'accord.
Question de VNZ, quelle est la seule console de jeu non Nintendo à avoir accueilli un Zelda?
C'est le CDI Philips.
Wouh! Et un point!
Avec un Zelda, je crois que c'était les Zelda changent légèrement de qualité. Là, c'était le pire Zelda qu'on puisse imaginer. C'était une grosse merde.
Effectivement, c'est trois jeux qui ont été créés. Link, The Faces of Evil, Zelda, The Wand of Gamelon et Zelda's Adventure. C'est les jeux considérés comme faisant partie des pires jeux jamais créés.
Mais c'est marrant, quand on se rappelle l'époque, quand même, il y avait... Aujourd'hui, c'est simple, hein, il y a la Xbox, la PS3 et la Wii. À l'époque, en plus de... Bon, il y a eu la migration Super Nintendo, mais à côté, on a eu des tonnes de consoles à un moment qui sont arrivées, mais en parallèle.
Mais c'est la génération perdue, en fait, les CDI interactifs.
La CDI, la Jaguar, la Atari Jaguar 64, la 3DO aussi.
Et c'est plein de consoles qui n'ont jamais...
Décollé, mais qui avaient chacune un truc intéressant. En tout cas, il y en avait chacune qui avait un angle sur CDI. Un jeu qui était vraiment sympa, c'était le jeu de tennis, qui était quasiment photoréaliste pour l'époque, c'était assez hallucinant. Donc voilà, chacune de ces consoles avait il était bluffant celui-là pour l'époque, hein, évidemment, mais on avait chacune de ces consoles avait un truc intéressant, puis finalement voilà.
Et deuxième question pour le fameux lecteur CD de la Super NES, avant de travailler avec Philips, une autre firme était en relation avec Nintendo, laquelle et comment devait s'appeler le produit?
Bah, je sais que normalement l'ajout CD-ROM de la Super Nintendo qui a jamais vu le jour, c'est ce qui s'est transformé en PlayStation par la suite.
Exactement, il s'agit de Sony qui travaillait pour créer la Nintendo PlayStation.
C'est ça, ouais.
Dingue, ça. Rien ne se perd, tout ça. Donc c'était une deuxième question de VNZ.
What's this? Nobody kills the bat but me.
DC Universe Online, donc le jeu massivement multijoueur dans l'univers de Superman, Batman, Wonder Woman, Lex Luthor, qui d'autre, le Joker, Flash, Green Lantern, vient de sortir donc sur PC et sur PS3. Alors moi j'ai eu l'occasion de tester la version PS3, alors je me suis un peu renseigné sur la version PC pour en parler, parce que c'est un MMO, c'est pas le premier MMO sur console, on a déjà eu les Final Fantasy bien connus, entre autres, je crois qu'il y en a eu d'autres aussi, mais donc là c'est une grosse licence, c'est du multiplateforme PC et console, un peu donc sur le modèle Final Fantasy 11 si je ne m'abuse, et le dernier qui est sorti. Bon, je ne pouvais pas, même si je ne suis pas très attaché à l'univers DC, hein, j'ai une haine envers Superman assez, assez profonde, je ne pouvais pas m'empêcher de tester ça, hein, quand même. Donc j'ai essayé. Alors, il faut se préparer psychologiquement. Quand on joue à DC Universe Online, et surtout sur PlayStation 3, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps parce que le jeu commence par s'installer sur la console, ce qui prend environ 40 minutes. Après l'installation, on se dit, on va finir par jouer. Et là, après l'installation, donc ils vérifient les fichiers, ce qui prend déjà un petit bout de temps
mais
aussi.
Mais ça, c'est pas lié forcément à ce jeu-là. Hein. Je sais pas si ça fait longtemps que t'as pas joué sur PS3, mais c'est le problème de la console, quoi.
Devil May Cry déjà à l'époque avait un temps d'install. Mais donc après, bon, parce qu'on se dit, oui, c'est la PS3, donc 40 minutes d'installation, on est content. 2,7 gigaoctets à télécharger, donc tu es content, tu vas attendre une heure et demie de plus, donc voilà. Pour jouer à DC Universe Online, il faut avoir du temps déjà avant de jouer. Et après, bon, moi j'étais très impatient de créer un personnage. En fait, à l'époque, j'avais joué à City of Heroes, juste pour me créer un personnage de super-héros. Hein.
C'était le premier MMO de super-héros.
C'était le premier MMO de super-héros. Et puis là, c'est plutôt bien fait. Hein. On a la possibilité, si on veut pas se fatiguer, à être face à son mauvais goût naturel, parce que alors créer un super-héros de toute pièce, on finit toujours par un truc d'un mauvais goût absolu. On se finit avec des cornes, des ailes de chauve-souris et un slip en kangourou. On finit forcément par avoir du mauvais goût. Et donc, on a une sorte de présélection, un super-héros type Superman, un super-héros type Batman, un super-vilain type Joker. Et après, on le modifie un petit peu, on peut changer les couleurs et tout ça. Donc, on peut se créer un super-héros plutôt cool assez facilement. Et donc on commence à Metropolis. Alors il y a les deux grandes villes de l'univers d'ici qui sont représentées, Metropolis et Gotham City. Alors première constatation, parce que j'ai fait les deux, il vaut mieux, si on veut se sentir dans un massivement multijoueur, il vaut mieux prendre le côté héros. Parce que c'est clair que les gens qui jouent à DC Universe Online n'ont pas envie, ou en tout cas manifestement, de jouer un pote du Joker ou un pote de Lex Luthor. Ils ont plutôt envie de jouer un pote de Batman ou un pote de Flash. C'est ce qui fait que quand on joue côté héros, on a vraiment l'impression d'être dans un massivement multijoueur. Il y a du monde, hein, il y a plutôt du monde. Même si c'est pas la foule, hein, on n'est pas dans World of Warcraft, mais c'est plutôt pas mal. Côté vilain, c'est pas le désert, mais on croise 3-4 personnes au look plutôt dark.
Et en termes de gameplay, ça fonctionne comment alors en termes de...
Alors en termes de gameplay, c'est assez original, en tout cas pour un MMO, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un mode de gameplay. Bon, on va parler des combats hein, principalement. Les déplacements sont sympas. Je passe rapidement sur les déplacements. On a trois modes de déplacement quand on crée son héros. Le voler, ce qui est le cas à peu près de tous les super-héros de l'univers d'ici. Voler, aller vite façon Flash, donc courir et sprint. Et puis sauter un peu partout. Et en fait, c'est plutôt très agréable. Le vol, quand on commence à s'envoler très haut au-dessus de Metropolis, c'est vraiment sympa parce que le design des paysages est vraiment très cool, quoi. Enfin, on est vraiment à Metropolis, on est vraiment à Gotham City, donc c'est très très agréable à ce niveau-là. Les premières sensations de jeu sont super positives. On vole, on se balade, on explore. L'extérieur est plutôt pas mal, même si gros problème pour moi, c'est que les rues sont plutôt désertes.
En fait, donc t'as que contrairement à un World of Warcraft, etc. T'as que deux villes en fait. Deux
gros centres, mais c'est des grosses villes, c'est des gros centres. Et après, je crois savoir qu'il y a des missions à l'extérieur, des espèces d'instances qui sont dans d'autres lieux. Bref, les premières sensations de jeu sont plutôt très agréables, sauf que je te disais, les rues... Enfin, pour le problème, quand t'es super-héros, t'es censé sauver la planète, donc sauver des gens. Sauver l'humanité. Et là, l'humanité, elle est un peu désespérante. Hein. Et ils se mettent à courir partout, à hurler dans les rues tout le temps, parce qu'il y a partout des super-vilains. Donc, c'est un peu... l'humanité est un peu bizarre. Hein. Mais bon, bref, on s'en passe. Et arrivent les combats. Alors, il faut savoir que, d'après ce que j'ai lu, DC Universe est un jeu pour PS3. C'est vraiment un jeu pensé pour console, c'est-à-dire qu'on est plus proche du beat'em all au niveau du gameplay que sur un jeu un gameplay à cooldown, c'est-à-dire un gameplay où on va dire attaque et puis le personnage va attaquer en fonction de sa caractéristique vitesse, du nombre d'attaques par seconde.
Donc en fait, t'as le système tank, soigneur, dégâts distance, dégâts au corps à corps.
T'as le pattern tank, donc offense, le truc de contrôle, donc et le truc de guérison, il y en a pas beaucoup. Des profils de guérison, mais bref, t'as les patterns assez classiques du MMO, mais ça j'y reviendrai assez rapidement. Là, pour le combat, c'est plutôt sympa parce que donc on contrôle, on a accès à 8 pouvoirs différents. Alors moi je suis pas encore arrivé à des niveaux où j'en ai 8, mais en sélectionnant avec gâchette gauche et gâchette droite et un des 4 boutons, on peut déclencher un pouvoir, sachant que si les gâchettes sont pas enclenchées, on a le pouvoir de coup de poing et le pouvoir de tir à distance qui sont activés par défaut. Et franchement, c'est plutôt très agréable à jouer. Le côté beat'em all, on se sent vraiment super-héros. Enfin, on se sent vraiment jouer un super-héros quand on tire ses rayons ou quand on tire avec ses flingues de très loin et quand on tape comme une brutasse au corps à corps. On a un vrai truc de rythme. On n'est pas là à dire bon bah voilà, je commence à combattre ce mec et puis après je me la coule douce en attendant que le PNJ meure. Donc c'est assez agréable. Le système de combat est assez agréable. Alors le problème, c'est que le côté MMO, par contre, alors c'est peut-être moi qui ai joué un peu solo, sauf que
t'as pas vu le côté MMO, ça peut être un jeu solo quoi.
Le problème, c'est l'interface. L'interface MMO est d'une part pas bien du tout documenté, c'est-à-dire on t'explique vaguement à un moment qu'il y a le chat général qui est là et si tu veux taper, vas-y.
Ouais.
Et c'est pas introduit quoi. C'est d'une part, c'est au niveau tutoriel, c'est très mal fait. Hein. Par exemple, pour comprendre le fonctionnement des pouvoirs. Bon courage, parce que tu as le fonctionnement de base, genre balancer une onde télépathique ou un truc comme ça. Donc ça, tu sais, ou un sort de sorcellerie, tu sais à peu près comment faire de base. Et puis après, il t'explique. Alors, en mode offensif, ça augmente 45% de ta série de coups jusqu'à ce que le compteur de coups revienne à zéro. Quoi ? Pardon, ouais. Quoi ? Tu sais même pas ce que ça veut dire. Et un peu pareil pour l'aspect MMO. On t'explique jamais comment vraiment faire un groupe avec les gens.
Ouais, parce qu'en plus, j'imagine que sans clavier, c'est moins facile de parler, d'échanger, de.
Alors, c'est évidemment
parce que par défaut sur PS3, t'as pas. Enfin, c'est compatible avec, t'allais dire, avec le chat vocal,
ouais,
peut-être.
Ouais, c'est compatible.
Mais sur PS3, par défaut, t'en as pas.
Ouais.
Enfin, c'est pas fourni de
moi,
base.
Moi, j'en ai pas, et puis je suis pas fan de discuter avec des gens.
Ouais, tu connais pas.
Ouais, c'est pas. Autant dans WoW, ça me gênait pas.
On tape
et voilà. Et là, c'est vrai que du coup, l'aspect interactivité. Alors, tu vois les super-héros se balader un peu partout dans les airs et tout ça. C'est cool. Tu vois que tout le monde a à peu près aussi mauvais goût que toi, hein, ouais. En termes de déguisement. Mais t'es un peu tout seul. Alors, en plus, il y a d'autres choses qui s'ajoutent. C'est que le niveau max est capé à 30. Et il semblerait qu'on y arrive assez vite.
Rapidement.
Moi, je sais que je suis arrivé au niveau 8.
Ça ressemble plus à un beat'em all dans un univers MMO plutôt qu'un vrai MMO.
Et alors le gros problème qui vient avec, alors parlons des problèmes parce que finalement le jeu est plutôt pas mal. Enfin, il a pas de très gros défauts, mais son plus gros défaut, c'est un abonnement de 12€ par mois.
Ouais, c'est ouais.
Le problème, c'est que soit DC Universe Online s'adresse à la niche des fans de DC Universe et s'adresse à des hardcore MMO players qui rêvent de jouer avec Superman et tout ça. Donc là, oui, ils vont payer 12€. Soit ça s'adresse à quelque chose de beaucoup plus casual. Enfin, moi, j'avais pris comme ça le côté MMO beat'em all. Moi, c'est sympa.
Un peu comme Guild Wars.
T'achetais
le jeu, puis après, t'avais pas d'abonnement, quoi.
Et là, on est face à un abonnement à 12€ par mois.
Ça fait cher.
J'imagine à aucun moment le modèle économique fonctionner. Ouais. C'est un des gros soucis.
Qu'en ce moment, ce qui est marrant, c'est que tout le monde parle de The Rift. C'est apparemment. Là, il y a une bêta fermée en ce moment. C'est le MMO, apparemment. Bon, c'est une copie de Warcraft, mais en beaucoup plus joli. C'est le MMO qui plaît aujourd'hui à tous ceux qui jouent à World of Warcraft. Donc, c'est peut-être le MMO qui va être intéressant de suivre.
Payant,
évidemment.
Ah oui. Payant, ah oui.
Qui va être intéressant de suivre dans les semaines et les mois à venir.
Bon, bah, moi, en tout cas, pour conclure, franchement, j'ai pas été déçu hein, par DC Universe, même si bon.
Mais tu paierais pas tous les mois pour y jouer, quoi.
Ouais, franchement, l'exploration, le début, l'exploration, faire son personnage, se balader Metropolis, Gotham, à Gotham City, t'as le bat signal dans les airs et tout ça. C'est super trippant. Enfin,
surtout pour
quelqu'un
comme toi qui est déjà dans le monde des comics, voilà.
Une des premières missions quand t'es un super héros, c'est de. Bon, elle est pas géniale parce que tu joues contre l'espèce de super vilain gorille de l'univers DC qui est absolument ridicule au dernier degré, mais par exemple à la fin du niveau tu vas libérer Flash, donc tu combats le super vilain avec Flash à tes côtés. C'est assez marrant quoi, tu étais vraiment impliqué dans l'univers DC, mais je n'imaginerais à aucun moment payer 12 euros par mois pour continuer à jouer avec ça. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'il y a un petit problème de réflexion de modèle économique. En même temps, on a déjà vu des MMO qui ont changé de modèle économique en cours de route. Ne désespérons pas. Voilà. C'est fini pour les jeux vidéo. Et on va passer par la question rituelle à laquelle on ne va pas échapper. Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi, Clément ?
Je suis allé au cinéma et j'ai vu Green Hornet. Alors, c'est sympathique. Non, franchement, j'étais agréablement surpris. Je m'attendais à pire. Je trouvais ça assez malin, la réactualisation. J'espérais que Michel Gondry allait avoir un peu plus d'innovation, mais bon, voilà, ça passe. Par contre, extrêmement déçu, en tout cas sur Paris, on est, quand on va le voir au cinéma et qu'on est donc un client tout à fait légal comme moi, on est obligé de le voir en 3D. Et,
c'est dommage,
parce que c'est, en plus, c'est de la 3D qui est pas prévue de base. C'est la 3D qui était rajoutée en post-prod. Et moi, voilà, moi, la 3D, je suis absolument pas contre. Je suis prêt à aller le voir quand j'ai envie d'aller le voir, quand un film nous en met plein les yeux ou machin, etc. Et celui-là, franchement, ça a quand même gâché mon plaisir de me forcer à prendre une 3D pour le voir. Mais sinon, assez rigolo dans sa manière de... C'est un autre film de super-héros qui se fout un peu de la gueule, les films de super-héros. Enfin, c'est assez rigolo. Donc, Green Hornet, globalement, j'ai assez apprécié, même si la 3D, pour moi, était trop.
Moi, pour ma part, j'ai enfin lu, c'est après 3 ou 4 ans d'arrêt, il y a eu le 13e tome de Power qui est sorti, dont j'avais déjà parlé ici.
Et c'est moi qui les tiens, d'ailleurs, au passage.
Ah, c'est toi qui les as, je cherchais les tout premiers. C'est le 13e tome, ils avaient arrêté au bout de 12, hein, c'était un grand arc très, très intéressant de Bendis et Oming. Oming qui est connu des joueurs de jeux vidéo pour avoir fait les BD issus de Team Fortress,
13, 2, ouais,
entre
ouais,
autres, ouais. Et de Left 4 Dead. C'est vraiment génial, c'est super de retrouver Christian Walker.
Donc c'est un nouvel arc narratif qui commence.
Ça commence à la fin de l'autre parce qu'il y a eu plein d'histoires. Et donc c'est toujours cet univers dans un univers de super-héros, des policiers, des enquêtes policières. Et franchement, je le conseille, c'est en anglais encore, évidemment pas traduit. Power chez Marvel. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.